en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour notre invité, les neurones de la lecture et la bosse des maths n'ont presque plus de secret pour lui. Les neurones de la lecture et la bosse des maths, ce sont aussi des titres de ses deux grands ouvrages issus de ses recherches qui l'ont fait connaître au grand public. Car non seulement notre invité est un neuroscientifique qui fait autorité dans sa discipline, et ce n'est pas moi qui le dis, mais Oliver Sacks, neurologue et auteur du célèbre livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », mais c'est aussi un grand pédagogue qui saura vous passionner sur les différentes expériences qu'il réalise avec ses équipes dans son laboratoire. Tout ça pourquoi ? Eh bien pour essayer de percer les secrets des bases cérébrales de l'arithmétique et de la numération, de la lecture et de la conscience, rien de moins. Stanislas Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes psychologue cognitif et neuroscientifique, comme je le disais à l'instant, directeur de l'unité mixte INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive à Saclay. Professeur au Collège de France, où vous occupez depuis 2005 la chaire de psychologie cognitive. Vous êtes le Benjamin du Collège de France. Et puis vous êtes membre de l'Académie des sciences également depuis 2005. Votre formation est au départ plutôt centrée sur les sciences dures, puisque vous êtes entré à l'ENS dans la section mathématiques, avant de poursuivre par un master de maths appliquées et de sciences informatiques. A priori, ça semble relativement éloigné de vos préoccupations d'aujourd'hui, notamment centrées sur les bases cérébrales de la conscience, non ?
J'étais toujours passionné par le cerveau et à l'époque, je pensais que c'était l'intelligence artificielle qu'il fallait pratiquer pour étudier le cerveau. Je n'avais pas encore compris qu'il existait une discipline qui commençait à s'appeler les sciences cognitives et maintenant les neurosciences cognitives, qui permet d'étudier beaucoup plus directement les fonctions cérébrales. Et donc, je suis passé tout naturellement des mathématiques à la psychologie pendant mon séjour à l'ENS. Et avec l'aide de Jean-Pierre Changeux, j'ai appris un peu de neurosciences.
Jean-Pierre Changeux, qui est également votre collègue à l'Académie des sciences.
Absolument, et au Collège de France.
Et au Collège de France. Alors, les parcours des chercheurs sont presque toujours aiguillés par des rencontres clés dans leur carrière. Est-ce que pour vous, la rencontre clé a été celle avec Jacques Mahler, avec qui vous avez travaillé pendant 10 ans?
Jacques Mahler était mon premier mentor. C'est lui qui a dirigé ma thèse. Et ma thèse était en psychologie cognitive et était consacrée à la représentation des nombres dans le cerveau. Et donc j'étais simultanément, c'était une situation intéressante, j'étais dans un laboratoire de psychologie cognitive que dirigeait Jacques Mahler, tout en passant un peu moins de la moitié de mon temps avec Jean-Pierre Changeux à faire des modèles de réseaux de neurones. Et à l'époque, la psychologie et les neurosciences ne cohabitaient pas très facilement. La psychologie était très fonctionnaliste, elle espérait ne pas avoir à se pencher sur le cerveau, elle espérait pouvoir résoudre le problème du traitement de l'information dans le cerveau d'une manière purement algorithmique. Et en se disant, après tout, un ordinateur, ça peut tourner avec du silicone, ça peut tourner avec des neurones, tout ça, c'est la même chose. Et on est totalement revenu de cette idée. Dès le départ, Jean-Pierre Changeux savait très bien qu'il faudrait étudier l'architecture neuronale pour comprendre les fonctions du cerveau. Mais à l'époque, c'était un vrai débat, et donc j'ai bénéficié des deux optiques, si vous voulez, celle du psychologue et celle des neurosciences. Et puis est arrivée l'imagerie cérébrale qui nous a permis une réconciliation en étudiant directement l'objet cerveau sous l'angle de la psychologie.
C'est justement une de vos spécificités, c'est que vous introduisez dans cette discipline l'imagerie cérébrale avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour faire plus simple, l'IRMF. Ça a été difficile de faire intervenir ce nouvel outil dans cette science ?
Bon, maintenant, en France, on dispose des meilleures machines. Moi, je travaille au centre Neurospin de Saclay, qui est l'un des mieux équipés d'Europe et probablement du monde. Donc non, ça n'a pas été spécialement difficile. Ce sont des outils qui sont techniques, bien entendu. Il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne de traitement des données, qui sont très lourdes, très complexes, plusieurs gigabytes de données en quelques dizaines de minutes d'expérience. Donc, il y a beaucoup d'informatique et de mathématiques qui sont impliquées. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des méthodes de la psychologie. C'est-à-dire qu'on continue de faire de la psychologie. L'objectif est de comprendre l'organisation des représentations mentales, mais l'outil a changé. L'outil n'est plus simplement le rapport verbal des sujets ou le comportement, c'est aussi un accès beaucoup plus direct à leurs représentations mentales par le biais du fait de les voir directement s'activer dans le cerveau.
Alors venons-en au vif du sujet. Une de vos découvertes, c'est l'intuition des nombres qui fait appel à des circuits particuliers du cerveau. L'intuition des nombres, alors ça, il faudrait que vous nous en parliez. Une intuition qui est valable aussi bien chez l'homme que chez les animaux.
Ben oui, j'essaye de réhabiliter ce concept d'intuition. Et on parle de choses extraordinairement simples. Il ne s'agit pas de mathématiques très élevées. Mais si je vous dis par exemple que 22 plus 11 fait 99. immédiatement, vous vous dites non, c'est faux. Vous n'avez pas eu besoin de faire le calcul. Vous vous êtes rendu compte que les nombres étaient trop distants. Vous allez peut-être dire que 99 est trop à droite, trop loin. Et ce concept de distance pointe vers une représentation du nombre qui est approchée, qui est un petit peu comme une ligne numérique dans le cerveau, qui fait appel à la représentation de l'espace. On parle d'un espace des nombres et qui nous permet d'approximer les calculs. Alors effectivement, on a montré que même lorsqu'on regarde des nombres sous forme symbolique, en chiffres arabes, on convertit le nombre symbolique en une représentation quantitative et notre cerveau travaille avec la quantité. Et cette représentation de la quantité, effectivement, elle existe aussi chez l'animal. Évidemment, l'animal ne dispose pas de symboles, mais lorsqu'il voit un ensemble d'objets, disons une quinzaine d'objets, il est tout à fait capable de se représenter qu'il y en a à peu près 15 et que c'est différent d'en avoir à peu près 30. Il y a une sorte de psychophysique, c'est-à-dire qu'on traite ces objets sous une forme de représentation approximative. Et même les animaux et aussi les très jeunes enfants, avant d'avoir appris les symboles des nombres, sont capables de les combiner, de les comparer, de faire des additions, des soustractions, des comparaisons approximatives.
Ça fait d'ailleurs partie de l'objet de votre livre sur la bosse des maths, voilà. Le premier volet et le deuxième volet, puisqu'il a été revu et augmenté en 2010.
Il a fallu faire un deuxième volet parce que les données ont énormément avancé, et notamment l'une des grandes avancées, c'est d'abord l'imagerie cérébrale, qui nous a permis de voir qu'effectivement, à chaque fois que les personnes approximaient, elles faisaient appel à une région particulière de leur cerveau, qui s'appelle le sillon intrapariétal, qui est en fait une région clé pour le sens des nombres. À chaque fois qu'on pense à ce que veut dire un nombre particulier, et dès qu'on fait des petits calculs, cette région s'allume. Et là, il y a toute une histoire de science qui est assez belle derrière, parce qu'on a prédit avec Jean-Pierre Changeux, sur la base d'un modèle de réseau de neurones, qu'il devait y avoir dans cette région des neurones des nombres, des neurones focalisés sur des nombres bien précis, chacun préférant tel ou tel nombre. Donc, imaginez un neurone qui décharge quand il y a 3 objets, mais qui ne décharge pas quand il y en a 5 ou quand il y en a 1, et qui décharge un petit peu moins s'il y en a 2 ou 4. Vous voyez, une sorte de courbe en cloche, comme ça. C'était une prédiction théorique, et des collègues américains sont allés la chercher chez l'animal, et ont montré qu'effectivement, dans cette même région, et ça a l'air d'être une région homologue, donc dans le cerveau du primate humain et non humain, il existe des neurones des nombres. Et après, on est revenu chez l'homme, et on a pu montrer qu'effectivement, chez l'homme, par imagerie cérébrale, très probablement, les mêmes neurones des nombres existaient dans cette région. Et maintenant, chez le bébé, de quelques mois, une personne qui était à l'époque ma thésarde, Véronique Izard, qui est maintenant chercheuse au CNRS, a démontré que le bébé avait lui aussi cette région qui s'activait, notamment dans l'hémisphère droit, quand les bébés voient des ensembles d'objets approximatifs et pensent à leur nombre, discriminent leur nombre. Donc la boucle est bouclée, il est tout à fait clair, et c'est le titre de ce livre, La bosse des maths. Nous avons tous une représentation approximative qui donne du sens aux mathématiques, si vous voulez, qui donne du sens aux nombres. Et elle est là dès le départ, elle est héritée de l'évolution, elle était utile chez les autres espèces animales pour se représenter la quantité de nourriture ou la quantité de congénères dans notre environnement. Elle était utile à la survie et aujourd'hui, elle sert de fondement à l'apprentissage des symboles mathématiques.
Une acuité numérique, c'est le terme que vous employez, une acuité numérique qui semble innée, mais est-ce que pour autant tout le monde a cette même acuité numérique au départ?
C'est une question de deuxième ordre. La première question de premier ordre, c'est de comprendre ce qui est commun à tout le monde. Et en principe, cette représentation est commune à tout le monde. Par exemple, dans les recherches chez les petits-enfants, il n'y a pas de différence entre les petits garçons et les petites filles dans cette acuité numérique. Tout le monde discrimine au départ des quantités assez distantes. Et puis au fil de l'évolution, simplement, du développement de l'enfant, et en partie sous l'influence de l'éducation, l'acuité numérique va se raffiner progressivement. Donc un petit enfant est capable de faire la différence entre 4 et 8 objets, par exemple, mais pas entre 4 et 5. Et progressivement, il va devenir capable de faire la différence entre 4 et 6, puis il va arriver à 4 et 5. Chez l'adulte, on arrive à faire la différence entre à peu près 7 et 8 objets, donc un rapport de 7 à 8, si vous voulez. Alors, c'est là qu'il existe des différences. Il y a une catégorie d'enfants qui n'ont pas l'air d'avoir exactement la même acuité numérique et qui peuvent éventuellement développer ce qu'on appelle une dyscalculie, c'est-à-dire un trouble particulier de la capacité à apprendre l'arithmétique. Des enfants qui peuvent être d'intelligence complètement normale, qui ont un développement linguistique normal, qui apprennent à lire, mais qui, dans le domaine particulier de l'arithmétique, ont une difficulté très sévère parfois. J'ai vu certains de ces enfants qui ne savent pas dire ce qu'il y a entre 2 et 4, par exemple. Ou bien qui ne savent pas faire 5 moins 1, vous voyez.
Mais des comme opérations le qui cerveau sont... est très plastique, j'imagine que...
Alors oui, ce n'est pas une sentence à vie d'être dyscalculique, et beaucoup de ces enfants vont au-delà de leurs difficultés. Mais on peut montrer que, par imagerie cérébrale, si on traite un groupe d'enfants dyscalculiques, on peut montrer qu'il y a souvent des anomalies précisément dans cette région pariétale qui devrait normalement s'activer lorsqu'on fait des calculs. Alors, soit elle ne s'active pas suffisamment, soit son organisation anatomique elle-même est légèrement désorganisée. Il y a moins de matière grise que dans une population contrôle. Donc, on pense que des anomalies périnatales, voire prénatales, dans la migration des neurones ou l'organisation des circuits neuronaux dans cette région prédispose certains enfants à des difficultés en arithmétique. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les compenser par une éducation focalisée sur ce domaine, voire des jeux mathématiques dans ce domaine.
Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des difficultés en maths ont pour autant une dyscalculie.
Alors, exactement. Parfois, c'est l'éducation qui est en cause. Je crois que ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, c'est que, disons, notre système scolaire ne prend pas toujours assez en compte les compétences préalables de l'enfant. On travaille souvent dans le domaine de l'enseignement avec un modèle du remplissage du cerveau, une tête bien pleine. Mais on ne prend pas en compte le fait que l'enfant arrive avec des intuitions très nombreuses, très variées, dès le CP ou même avant, dès la maternelle, et qu'il faut qu'il connecte les symboles mathématiques qu'on lui apprend avec ses intuitions. Il faut qu'il comprenne qu'additionner, soustraire, même les nombres premiers sont des concepts extraordinairement intuitifs en réalité. S'il considère que les mathématiques sont un jeu abstrait, qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il faut copier ce que dit le maître, il ne va pas à ce moment-là faire appel à son sens des nombres, et là, les difficultés commencent.
D'ailleurs, vous avez développé, vous le citez en post-faste de votre livre « La bosse des maths », donc dans la version revue augmentée, un logiciel que vous avez mis sur place, justement, un logiciel gratuit, accessible aux personnes qui le désirent, justement, qui s'intitule « La course aux maths ».
La course aux nombres.
La course aux nombres, et qui permet de stimuler les enfants qui auraient des difficultés ou pas spécialement.
Ah oui, j'essaie d'orienter une partie de l'activité du laboratoire vers des applications concrètes, soit chez les patients adultes avec des lésions cérébrales, soit chez les enfants dans le domaine de l'enseignement. Et c'est un travail qui s'inspire de la recherche d'autres collègues qui ont montré que le fait de jouer à des jeux de plateau dans lequel vous jetez des dés, vous avancez en fonction de la quantité que vous obtenez, vous pouvez voir sur une ligne qui est en fait une ligne numérique à quel point vous êtes proche de l'arrivée, si votre compétiteur est devant vous, derrière vous, etc. Eh bien, des jeux de ce type-là entraînent le sens des nombres. Et en fait, le sens des nombres est très lié au sens de l'espace. Et tout ce qui renforce les liens nombre-espace, finalement, est extrêmement bénéfique pour l'enfant. Alors, le logiciel qu'on a développé, sans en donner l'impression, est un logiciel éducatif. Mais en fait, c'est un jeu qui s'adapte automatiquement au niveau de l'enfant. Le logiciel détecte les difficultés de l'enfant et va lui présenter des problèmes particuliers qui sont juste assez difficiles pour lui. Vous voyez, qui ne le découragent pas, mais qui le font travailler. Et quand l'enfant dépassera cette difficulté, le logiciel va s'en apercevoir et va présenter des problèmes nouveaux. Donc, on arrive comme ça à un jeu que l'enfant aime bien parce qu'il gagne, finalement, mais qui sollicite ses compétences mathématiques et qui les font progresser.
Alors, autre point passionnant parmi tous les autres points, c'est la spatialisation des nombres. Alors, effectivement, si on fait l'expérience d'additionner deux chiffres, naturellement, on va regarder en haut à droite. Mmh. Et puis, au contraire, si on fait une soustraction, on va regarder plutôt en bas à gauche. Pourquoi ?
Eh bien, effectivement, on a montré qu'en plus de cette région centrale qui s'intéresse aux nombres, il y a tout autour, dans le lobe pariétal, une série de régions qui s'intéressent aux transformations dans l'espace. Notamment quand vous guidez votre main dans l'espace vers une cible, il y a évidemment une série d'opérations qui apportent votre main au bon endroit. Lorsque vous bougez les yeux, lorsque simplement vous portez votre attention sans bouger les yeux, vous faites appel à différentes régions du lobe pariétal. Et alors, j'ai développé cette idée très simple de recyclage neuronal, c'est que lorsque nous étendons nos compétences mathématiques, nous sommes obligés de recruter des régions supplémentaires dans le cortex qui sont proches de celles qui s'intéressent à la fonction primaire, donc en l'occurrence la représentation des nombres. Donc on a montré dans un article dans Science il y a 2 ans que lorsqu'on fait des calculs, on recrute une région qui s'intéresse au mouvement des yeux, qui est juste à côté de la région qui s'intéresse à la représentation primaire du nombre, si vous voulez. Et lorsqu'on fait des additions, on se déplace vers la droite sur la ligne numérique, parce que cette ligne numérique est une métaphore, hein, mais c'est une représentation implicite des nombres que nous avons tous. Eh bien, elle est orientée de la gauche vers la droite. Les petits nombres sont à gauche, les grands nombres sont à droite. Là, notre intuition fonctionne comme ça parce que nous sommes dans une culture qui lit de gauche à droite. C'est lié à la direction de la lecture. Donc, voyons toujours dans des séries de nombres, les petits à gauche et les grands à droite. Et tout fonctionne comme ça, les règles, les axes mathématiques, les graphes, etc. Donc, lorsque nous faisons une addition, notre attention se déplace vers la droite parce que nous allons vers les grands nombres. Et lorsqu'on fait une soustraction, notre attention se déplace vers la gauche. Et ça, on a pu le voir directement au niveau cérébral. Les régions correspondant à ces mouvements à droite ou à gauche s'activent. Il y a même des gens qui le voient littéralement. La plupart d'entre nous, et c'est mon cas, ont un vague sentiment qu'effectivement, les petits nombres sont à gauche, les grands nombres sont à droite. Mais certaines personnes qu'on appelle synesthètes disent, pour moi, le nombre 1, il est là, en bas à gauche. Parfois, il y a même des couleurs. Hein. Il est bleu. Et puis, le 2 est un petit peu plus à droite et en haut. Le 3, il vient vers moi. Ça fait une spirale. Ils vous décrivent un alambic extraordinaire de nombres. Cette représentation spatiale des nombres est devenue consciente chez eux. Mais par la psychologie et l'imagerie cérébrale, on peut montrer que tout le monde a une représentation non consciente spatiale des nombres.
Stanislas Dehaene, on marque une pause. Si vous le voulez bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
1948-2008, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 60 ans. Au cours d'une émission Éclairage, Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, examine en quoi les droits de l'homme se sont à la fois enrichis et obscurcis en 60 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une émission Éclairage, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene, dans notre première partie d'émission, nous avons évoqué la bosse des maths, hein, pour faire simple, notre conscience des chiffres, des nombres, la spatialisation des nombres. Dans cette deuxième partie, on va parler plutôt des mots, de la lecture, et notamment du traitement subliminal des mots. Alors c'est un point passionnant sur lequel vous vous penchez et sur lequel vous avez notamment communiqué dans vos cours au Collège de France, ces premières expériences d'imagerie cérébrale sur le traitement subliminal des mots. Alors, subliminal, on a une vague idée, hein, c'est, on montre une image alors qu'on la voit à peine. Quelles sont les expériences que vous avez menées ?
Subliminal, oui, ça veut dire en dessous du seuil de la conscience, littéralement. Et effectivement, nous avons repris des expériences de psychologues antérieurs qui montraient qu'on pouvait flasher des mots et les faire suivre d'un, ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire une série de formes géométriques qui apparaissent exactement au même endroit, ensuite, après le mot. Et dans ces conditions, le mot n'est pas vu. Vous êtes face à un écran, vous savez, en tant qu'expérimentateur, vous avez programmé l'expérience, vous savez qu'il y a un mot, mais vous ne le voyez pas. Alors, le mot est en quelque sorte effacé de votre conscience. Et là où la recherche est devenue passionnante, c'est qu'on a pu montrer que ce mot subliminal avait une influence considérable sur le traitement cérébral. En fait, toute la partie qu'on appelle montante du traitement de l'information, qui va depuis la rétine jusqu'aux aires visuelles primaires et bien au-delà, en fait, jusqu'au traitement du sens du mot, est activée de façon non consciente dans le cerveau. Et on a pu montrer par imagerie cérébrale qu'une région qui nous intéresse particulièrement, qu'on appelle l'aire de la forme visuelle du mot, ce que j'ai appelé, pour plaisanter dans les neurones de la lecture, la boîte aux lettres du cerveau, c'est-à-dire cette région qui connaît les lettres et l'organisation des lettres pour former des mots, eh bien cette région s'activait de façon tout à fait non consciente. Donc on a contribué par ces recherches à montrer la profondeur du traitement non conscient de l'information dans le cerveau. Et puis ensuite, on s'est intéressé à ce qui se passe de façon tout à fait spécifique lorsqu'on franchit le seuil de conscience. Ce sont des expériences qui peuvent être très minimales parce que parfois le stimulus peut être le même. Vous voyez, si vous présentez un mot pendant 50 millisecondes et après il y a un masque, après une fois sur deux, vous allez le percevoir. Et donc la personne elle-même dit « je l'ai vu, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu, je n'ai pas vu ». On trie les essais et on peut donc comparer à stimulus constant une situation où le cerveau est devenu conscient d'une information et une situation où l'information est restée non consciente.
Et alors, vous avez développé avec Jean-Pierre Changeux des modèles mathématiques de ce que vous appelez un embrasement cortical.
En anglais, on l'a appelé « ignition », « embrasement ». Ce qu'on a vu dans nos images d'activité cérébrale, c'est que toute la partie initiale du traitement de l'information était la même. Autrement dit, il y a toute une période d'à peu près 200-250 millisecondes, un quart de seconde, où le cerveau traite l'information de façon non consciente. Et puis d'un seul coup, il y a une transition massive dans l'activité cérébrale. Et si on prend conscience de l'information, l'activité augmente, elle est amplifiée et elle envahit ce qu'on a appelé l'espace de travail global, c'est-à-dire une série d'aires cérébrales très distribuées dans le cerveau et qui implique en particulier les régions frontales du cerveau. Donc notre cortex frontal, très en avant du cortex, devient informé de la présence d'un mot et de son identité. Et on est arrivé à un modèle simple de ce que ça veut dire qu'avoir accès à la conscience, d'avoir accès à une information de façon consciente. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le mot devient disponible, si vous voulez. Peut-être que ce qu'on appelle être conscient d'une information, c'est tout simplement l'avoir en tête, d'une manière telle qu'on peut le partager et le diffuser à l'ensemble des processeurs du cortex. Typiquement, on appelle être conscient, ça veut dire être capable de nommer. d'abord. Et avant tout, c'est le critère principal, être capable de rapporter verbalement ce qu'on a vu. Mais c'est aussi le mettre en mémoire, c'est aussi l'évaluer, c'est aussi agir avec. Peut-être que dans 10 secondes, il va falloir que je fasse une action particulière. Je pourrais le faire si j'ai été conscient du mot. Je ne pourrais pas le faire si je n'ai pas été conscient du mot. Donc on voit que être conscient, c'est avoir l'information disponible et diffuser à toute une série de traitements cérébraux. Alors voilà notre modèle, je simplifie évidemment, mais l'idée est qu'il existe une structure anatomique particulière avec des neurones axones très longs qui traversent la substance blanche et qui diffusent l'information à des régions parfois très distantes du cortex. Et ce système est utilisé pour l'information consciente.
Et avoir conscience d'être conscient.
Alors ça c'est le niveau qu'on appelle métacognitif et qui est tout à fait particulier, peut-être à l'espèce humaine, bien qu'il y ait également quelques recherches chez l'animal. C'est effectivement, nous avons non seulement la capacité de prendre conscience d'une information, mais une fois qu'elle est consciente, nous sommes conscients d'être conscients. Cet aspect récursif de la conscience est beaucoup, beaucoup plus difficile à comprendre pour l'instant. Mais il semble effectivement que l'espace de travail global, si vous voyez, c'est un espace interne complètement détachable du monde extérieur. Je pense que c'est sa caractéristique principale et peut-être sa fonction dans l'évolution. Nous pouvons donc réfléchir au sens de la réflexion, mais aussi celle dans un miroir, c'est-à-dire nous pencher vers nous-mêmes et observer notre propre représentation. C'est cet espace conscient nous permet ce type d'activité.
Dans votre ouvrage « Les neurones de la lecture », dont il y a une traduction en anglais, « Reading in the Brain », paru en 2009, vous parlez du paradoxe de lecture. Alors c'est une question très intéressante, puisqu'effectivement, l'existence d'une aire cérébrale spécialisée pour la lecture avec une localisation reproductible d'un individu à l'autre soulève la question de son origine, puisque le cerveau a mis beaucoup de temps à se développer, et puis on lit et on écrit depuis très peu de temps. Comment se fait-il qu'on ait réussi, nous, humains, à développer une aire corticale?
Alors, je reviens à cette idée que j'ai développée antérieurement du recyclage neuronal. Nous n'avons certainement pas eu la possibilité d'évoluer pour la lecture. La lecture est beaucoup trop récente et surtout, jusqu'à très récemment, elle concernait une toute petite fraction de l'humanité. Donc, si le cerveau n'a pas évolué pour la lecture, c'est en fait les systèmes d'écriture qui ont évolué pour être acquis facilement par le cerveau. Et il semble qu'en inventant l'écriture, nous avons exploité la capacité d'une toute petite partie de notre système visuel à apprendre à reconnaître des formes nouvelles et à les envoyer vers les aires du langage parlé. Apprendre à lire, c'est donc recycler une petite région du cortex visuel qui, au départ, s'intéresse aux objets, qui s'intéresse au visage aussi, et qui, sous l'influence de l'éducation à la lecture, apprend à reconnaître les formes des lettres et les combinaisons de lettres, et apprend à les envoyer, à envoyer cette information vers les régions temporales qui s'intéressent à la prononciation des mots. Et c'est une chance que nous ayons une région qui possède les bonnes propriétés de reconnaissance invariante des objets, de projection vers les aires du langage, et que nous puissions la recycler. Si nous n'avions pas un tel système, nous ne pourrions pas apprendre à lire. Alors évidemment, on apprend à lire à un âge typiquement très jeune, vers 5-6 ans, où le cortex est très plastique, maximalement plastique, et donc il peut se réorienter dans cette direction-là. Mais ce qu'on a montré aussi récemment, si on scanne des personnes illettrées, c'est que même des personnes illettrées, c'est-à-dire non alphabétisées dans leur jeune âge, mais qui ont appris à lire à l'âge adulte, eh bien on voit aussi ces transformations dans leur cerveau. Autrement dit, les régions qui s'intéressent à la lecture restent plastiques tout au long de la vie et on peut encore apprendre à lire et on va utiliser les mêmes circuits dans une grande mesure que des enfants qui apprennent à lire précocement. Mais donc, si on compare le cerveau de personnes alphabétisées et non alphabétisées, là, les différences sont considérables. C'est-à-dire que vous avez vraiment transformé massivement une région qui, au départ, s'intéressait au visage, qui maintenant s'intéresse aux mots. Et en particulier, il y a une petite décroissance de la réponse au visage qui est très intéressante, qui montre bien qu'il y a une compétition corticale. Si vous voulez, la surface du cortex est finie. Et quand vous apprenez à lire, ben, il faut faire un petit peu de place et il y a une diminution des réponses à d'autres catégories d'objets, ce qui est donc compatible avec cette notion de recyclage.
Alors, au regard de ce que vous avez pu nous dire sur la dyscalculie et puis au regard de cette expérience sur les personnes illettrées, est-ce que ça amène à penser différemment l'éducation de nos enfants ? L'enseignement.
C'est une belle question et j'y réfléchis en ce moment. Je pense qu'il y a plusieurs points. D'abord, je pense qu'il est indispensable que les enseignants comprennent comment fonctionne le cerveau des enfants. Je ne vois pas comment on peut agir sur cette magnifique petite machine qu'est le cerveau d'un enfant si on ne la comprend pas un petit peu. Et grâce à cette nouvelle vision du cerveau, on comprend un certain nombre de mystères ou de petits mystères du cerveau de l'enfant. Par exemple, on a compris pourquoi certains enfants écrivent en miroir et savent lire en miroir. Ça, c'est, moi, je suis ravi de cette chose-là. C'est, pour moi, c'était quelque chose d'assez étonnant et mystérieux. Vous savez qu'il y a des enfants qui signent leurs dessins. Typiquement, c'est à l'âge où ils savent écrire leur nom, leur prénom. Alors, ils écrivent de droite à gauche et indifféremment de gauche à droite. Et ils se relisent et ils ne voient pas qu'il y a quelque chose d'étrange, là. C'est extraordinaire parce que c'est une compétence que personne ne leur a jamais appris. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, le modèle du recyclage neuronal l'explique parce que la région qui est utilisée pour apprendre à lire s'intéresse à la reconnaissance des objets et des visages et elle a évolué, et on peut le montrer même chez le singe macaque, pour reconnaître indifféremment le profil droit ou le profil gauche des visages ou des objets. Et c'est utile dans l'évolution parce que si vous regardez le monde naturel, la symétrie gauche-droite ne change pratiquement pas le monde naturel. Si vous avez une photo qui est inversée, tant que c'est le monde naturel qui est sur la photo, vous ne voyez pas la différence.
Il n'y a pas d'altérisation.
Voilà. Donc notre cerveau a internalisé cette régularité-là, alors qu'il fait très bien la différence verticale. Si vous inversez verticalement, ça fait une énorme différence. Mais il généralise par symétrie gauche-droite. Et le cerveau de l'enfant démarre dans cet état-là, donc il voit littéralement un B et un D comme étant la même chose. Pour lui, c'est le même objet. Et il y a une difficulté à surmonter qui est d'arriver à comprendre que ça n'est pas la même lettre. Ça renvoie à des sonorités complètement différentes, ce sont des lettres différentes.
Ça fait d'ailleurs penser un peu à la dyslexie, non?
Ou ce Alors sont deux choses non, très différentes? Justement non, on a longtemps pensé que cet enfant-là qui faisait des erreurs en miroir était sans doute un enfant dyslexique. En fait, la recherche montre que pas du tout. 90, sinon 100% des enfants sont susceptibles de faire ces erreurs en miroir si on les sollicite par un test approprié. C'est une propriété du cerveau normal. C'est une propriété de notre évolution. Simplement, cette propriété, contrairement à d'autres, n'est pas utile à la lecture. Elle est même plutôt nuisible à la lecture, en tout cas à la lecture dans notre système alphabétique. Vous savez qu'elle était utile à l'époque grecque. En grec ancien, on pouvait écrire de droite à gauche et de gauche à droite. En fait, on écrivait en boustrophédon, c'est-à-dire qu'on faisait une ligne de la gauche vers la droite et une ligne de la droite vers la gauche, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir sur des vases grecs anciens des écritures de droite à gauche, différemment. Eh bien, c'est parce que notre système visuel le permettait d'emblée. Il n'y avait pas besoin d'apprendre cette chose-là. Aujourd'hui, il faut désapprendre la symétrie en miroir. Et c'est une des difficultés que l'enfant doit surmonter.
La symétrie en miroir, c'est quelque chose que l'enfant conserve ou petit à petit, il perd cette capacité?
Non, alors il la perd, en tout cas pour les lettres et pour les mots. Peut-être qu'elle reste dormante, mais de façon non consciente. On la conserve, par contre, pour les autres objets. Donc on la perd pour tout ce qui concerne les lettres. L'idée du recyclage neuronal, c'est que non seulement on gagne des fonctions, et certainement quand on apprend à lire, on gagne énormément de fonctions, il faut insister là-dessus, pas seulement visuellement, mais aussi auditivement. On apprend à mieux écouter les mots, on a un code plus raffiné du langage, la mémoire augmente, la mémoire auditive double. Donc tout ça, ce sont des gains. Mais d'après le modèle du recyclage neuronal, il doit aussi y avoir de légères pertes. Il y a une compétition au niveau cortical. Et une des choses qui est perdue, c'est en partie cette symétrie en miroir.
Alors, je reviens à ma précédente question sur
l'enseignement.
Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles on a autant d'enfants qui ne rentrent pas dans le moule de l'enseignement?
Je pense qu'il faut réfléchir à des manières d'enseigner qui sont le plus proches de ce dont le cerveau a besoin. Alors, ce qu'on commence à comprendre, c'est que ce circuit fonctionne en reconnaissant les lettres, en reconnaissant des séries de lettres et en les envoyant vers ce qu'on appelle les phonèmes, c'est-à-dire les éléments sonores de la langue parlée, qui sont les plus petits éléments qui ont du sens, si vous voulez, comme les consonnes et les voyelles. Donc, ça rejoint toute une série de recherches pédagogiques qui sont extrêmement claires, qui montrent que les meilleures méthodes pédagogiques consistent à orienter l'attention de l'enfant vers ses phonèmes, orienter l'attention de l'enfant vers le niveau des lettres dans les mots et enseigner les correspondances entre les lettres et les phonèmes, entre les graphèmes et les phonèmes, si vous voulez. Donc le message est extrêmement clair. On sait maintenant comment il faut faire pour transformer le plus rapidement possible un cerveau de l'enfant qui ne sait pas lire en un cerveau d'enfant qui sait lire. Et on comprend aussi que l'histoire de la lecture globale est une illusion. Ça, j'en parle beaucoup dans les neurones de la lecture, parce que c'est une illusion psychologique. Ce qui se passe, c'est que le cerveau travaille en parallèle. Donc le cerveau traite toutes les lettres ensemble. Un mot de 3 lettres est traité aussi vite qu'un mot de 8 lettres. Alors ça a conduit les psychologues au départ, au début du XXe siècle, à penser qu'il y avait une lecture globale. Mais ça ne veut rien dire globale, c'est pas la forme, c'est pas le contour du mot qui est utilisé, c'est pas le fait que les lettres soient ascendantes ou descendantes, comme on l'a dit, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que simplement toutes les lettres sont traitées en même temps. Le cerveau traite les lettres et les envoie vers les sons, mais il a un traitement parallèle. Voilà, donc une fois qu'on a bien compris l'organisation du système, on comprend un petit peu mieux comment il faut enseigner. Et bien entendu, il faut continuer à faire des recherches dans ce domaine. Moi, j'insiste beaucoup pour que l'éducation nationale est un département de recherche et d'expérimentation. Je pense que c'est fondamental parce qu'on continue de faire des découvertes. Par exemple, Édouard Gentaz, qui est un chercheur du CNRS, a montré que le fait de tracer l'être et éventuellement de les toucher et d'en tracer le contour avec le doigt améliore considérablement la lecture. On ne comprend pas encore tout à fait pourquoi, mais c'est possible que ça aide à briser cette symétrie dont on parlait antérieurement. Et en tout cas, ça aide à figer la connaissance des lettres. Et les enfants qui bénéficient de cet enseignement apprennent plus vite à lire. Donc, nous sommes plusieurs collègues actuellement à penser qu'on peut commencer à formuler des principes cognitifs d'enseignement. Et c'est une activité qui, bien sûr, sera toujours en chantier. Hein. Mais l'état actuel des choses fait qu'on peut quand même proposer des choses très concrètes pour l'enseignement.
Mais vous devez certainement avoir un écho déjà positif, puisqu'il y a un bilan qui est sorti il y a peu de temps pour classer les systèmes scolaires des différents pays du monde, qui situe, je crois, la Corée ou parmi les premiers.
Shanghai, oui.
Et la Chine. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, ces pays utilisent ce que vous venez de nous expliquer ?
Il y a énormément de facteurs. Il faut être modeste dans ce domaine. Et certains facteurs peuvent être influencés en France. D'autres sont liés à la structure de l'enseignement lui-même. Par exemple, le temps passé par l'enfant à Shanghai, il est considérable et les enfants en souffrent aussi parfois. Et puis d'autres facteurs qui sont liés simplement à la structure de la langue ou à la structure de l'orthographe. Dans le domaine des mathématiques, c'est très sensible.
En Chine notamment, je crois.
Ah oui, les nombres asiatiques sont beaucoup plus simples que les nôtres. On va dire, au lieu de dire 33 par exemple, on va dire 3, 10, 3. Vous voyez, 3 fois 10 plus 3. Donc la base 10 est tout à fait transparente dans ces pays asiatiques et ils n'ont pas à apprendre des noms compliqués comme 11, 12, 13, 14. Ce simple fait fait gagner aux enfants asiatiques un an et demi d'apprentissage. Même chose pour l'orthographe. Notre orthographe, je dois dire, le français est la deuxième pire langue du monde pour l'orthographe. C'est la pire à l'écrit, c'est-à-dire dans le sens de la dictée. C'est peut-être pas la pire dans le sens de la lecture où l'anglais est vraiment catastrophique. Mais ces facteurs-là ont un coût considérable. Dans les neurones de la lecture, je publie la carte de l'Europe avec les erreurs de lecture après un an de CP. Par le simple fait de la structure de notre orthographe, nos enfants prennent 2 ans de retard par rapport à des enfants italiens ou des enfants allemands. Ce n'est pas la faute du système éducatif, c'est la faute du système orthographique. Et il faut le savoir, quand on discute de la réforme d'orthographe, tout le monde dit c'est impossible, on perdrait de temps, etc. Très bien, ayons cette discussion, mais ayons-les en étant conscients que de cette manière-là, on plombe d'une certaine manière notre système éducatif. Et un certain nombre d'enfants auront des difficultés, basculeront dans des difficultés de lecture, simplement à cause de la structure de notre système orthographique.
Mais les détracteurs vous diront que des tas d'élèves, d'enfants sont passés par le système actuel et qu'ils ne
Bien
sont
sûr,
pas...
Ce n'est pas impossible de surmonter. Hein, et moi, je ne suis pas forcément pour la réforme, mais je pense qu'il faut être conscient que s'il n'y a pas de réforme, à ce moment-là, il faut investir considérablement et année après année et continuer d'investir dans l'apprentissage de la lecture. L'apprentissage de la lecture n'est pas du tout fini après le CP. Chaque année d'école devrait avoir ses heures de lecture, d'abord au niveau des correspondances graphèmes-phonèmes, et ensuite, bien sûr, au niveau du sens. On ne dit pas assez, et peut-être je n'ai pas assez dit dans mon livre, qu'il faut aussi apprendre ce qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire les racines des mots, les préfixes, les suffixes, qui sont utilisés par notre cerveau pour décoder les mots, qui sont très importants en français, et qui aident l'enfant à faire du sens de ce qu'il lit.
Venons-en aux publications que vous avez menées dans votre labo à Saclay avec votre équipe. Pour l'année 2010, vous êtes très prolifique. Donc, vous nous avez parlé rapidement de ces miroirs, de ces effets miroirs. Quelles ont été les autres publications dont vous êtes assez fière et dont vous pourriez nous parler ?
Il y a eu ce travail sur l'alphabétisation, qui est à mon avis une certaine réussite, puisqu'il a fallu scanner, donc, avec les difficultés que vous imaginez, plus de 60 personnes, moitié venant du Portugal, l'autre moitié étant au Brésil. Donc les personnes du Portugal ont été envoyées en avion à Neurospin, à Saclay, où on les a scannées. Au Brésil, nous avons travaillé avec une équipe merveilleuse au centre Sara, Brasilia, qui a scanné les personnes sur place. Dans les deux cas, l'objectif était de trouver des personnes qui n'avaient pas appris à lire simplement parce qu'elles n'avaient pas la chance d'avoir une école auprès d'eux et d'être envoyées à l'école simplement à l'époque.
Donc, c'est et des adultes,
j'imagine. Une cinquantaine d'années, voilà. Ce qui aurait été, je pense, assez difficile à faire en France actuellement. Donc voilà, ça a été une grande étude qui nous a permis de voir l'ensemble des transformations dans le cerveau liées à l'éducation. Et la surprise, ça a été de voir que non seulement les régions dont on a parlé aujourd'hui ont été transformées, mais même d'autres. Hein. On n'a pas parlé, par exemple, des aires visuelles primaires. Lorsque vous apprenez à lire, vous changez votre cortex visuel primaire, c'est-à-dire celui qui reçoit toutes les entrées visuelles. Eh bien, la partie horizontales, celles dans lesquelles les mots apparaissent, et les, dans notre écriture, les mots sont horizontaux et proches de la fovéa, du centre du regard, eh bien, toute cette partie-là, l'activation cérébrale est doublée en réponse à toutes sortes de formes, par exemple des damiers. Donc, on ne comprend pas encore tout à fait ce phénomène, mais on a l'impression que notre vision elle-même a été raffinée par le fait d'apprendre à lire. Et évidemment, quand on voit la petitesse des caractères que nous sommes capables de lire, il est assez logique que le système visuel le plus précoce soit impliqué, finalement. Donc, on découvre encore actuellement l'importance de l'éducation pour la transformation du cerveau.
Une autre étude que vous avez menée, que vous avez publiée, et qui pourrait aussi passionner nos auditeurs?
Oh, il y a tout un volet de recherche dont vous pourrez parler une autre fois qui concerne la conscience. On a parlé un tout petit peu, mais ce qui nous passionne en ce moment avec Lionel Nakache, qui est à la Salpêtrière, c'est d'essayer de transformer notre compréhension de la conscience au niveau théorique en un outil pratique qui puisse aider les patients qui sont dans le coma ou qui sont dans un état végétatif. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le syndrome du locked-in, c'est-à-dire d'enfermement, Jean-Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon, des personnes qui sont conscientes mais qui ne peuvent pas communiquer à leur entourage qu'elles sont conscientes. Et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et évidemment, c'est épouvantable quand ça n'est pas détecté.
Vous parlez du locked-in syndrome qui n'est pas souvent détecté?
Oui, absolument. Donc la frontière entre état végétatif et locked-in n'est pas bien définie sur le plan clinique. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont traitées, qui sont classifiées cliniquement comme des personnes en état végétatif, mais qui sont en fait conscientes. Ce n'est pas la majorité, hein. C'est peut-être 10% dans l'état actuel des recherches, mais ces 10%-là, on aimerait bien les détecter plus tôt. Et donc, on a conçu un test électrophysiologique fondé sur l'enregistrement des ondes cérébrales en EEG qui permettra de détecter des signes de conscience, même si la personne n'est pas capable de communiquer. Et derrière, évidemment, beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde espèrent pouvoir générer des outils de communication uniquement par les ondes cérébrales. Si la personne ne veut plus commander ses muscles, elle peut peut-être encore commander telle ou telle région cérébrale et on peut le détecter de l'extérieur et s'en servir pour commander, par exemple, un fauteuil roulant.
Merci, la transition est toute trouvée. Votre laboratoire est proche des applications. Vous êtes un laboratoire de recherche, mais les applications sont proches. Il y a donc le laboratoire Toyota qui est en train de développer un fauteuil roulant qui pourrait se déplacer par la pensée. Est-ce que ce sont des études auxquelles vous vous intéressez également, Stanislas Dehaene?
Oui, bien sûr. Oui. Donc on est nombreux à travailler sur le traitement en temps réel des données d'imagerie cérébrale, que ce soit d'ailleurs l'IRM ou le G. Ce n'est pas très difficile de traiter ces données avec un ordinateur suffisamment rapide pour qu'il donne une réponse en quelques dizaines de millisecondes. Et puis, il y a tout un volet des recherches qui concerne ce qu'on appelle le décodage cérébral. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a une représentation dans le cerveau, une assemblée de neurones qui code pour chacun de mes états de pensée, eh bien, peut-être que, partant de l'activation, je peux reconstituer avec un algorithme informatique ce à quoi la personne pensait. Et peut-être elle pense à bouger son fauteuil vers la droite ou vers la gauche. Et on peut donc commander un appareil par le biais de cette interface cerveau-machine. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a montré dans le labo avec Evelyn Egger qu'on pouvait décoder à quel nombre la personne pensait, par exemple. Parce que, comme je vous le disais au départ, il y a une représentation du nombre dans cette région bien particulière du cerveau. Donc on est capable, décoder est un bien grand mot, on est capable de faire mieux que le hasard pour dire à quel nombre la personne pensait, parmi deux possibilités, est-ce que c'était 4 ou est-ce que c'était 8. Alors il ne faut pas avoir peur de ces recherches, souvent les gens ont peur, mais d'abord ce sont des démonstrations pour l'instant de laboratoire qui ne sont pas d'ailleurs très avancées, elles montrent que le code existe parce qu'on arrive à décoder à 65% de réussite au lieu de 50-50, vous voyez, donc ce n'est pas des réussites exceptionnelles. Elles sont importantes sur le plan théorique pour montrer qu'une représentation existe. Pour passer à la pratique, il faudra toute la coopération du patient. Et l'imagerie cérébrale ne peut se faire qu'avec la coopération du patient. Donc jamais vous ne passerez sous un portique d'aéroport et on vous sortira le chiffre de carte bleue que vous avez en tête. Vous voyez, ça n'existera jamais, je pense. Par contre, ça va être extrêmement important pour les applications cliniques. Et dans la mesure où c'est dans l'intérêt du patient, le patient va avoir envie de collaborer avec l'équipe clinique pour restaurer une communication efficace avec l'extérieur, là, ça va être vraiment quelque chose qui aura un grand impact sociétal. Quand je vois la manière dont, pour l'instant, on traite de façon très minimale, si on maintient en vie des personnes qui sont en état végétatif ou qui sont dans le coma, on ne fait guère plus que cela. On essaye de restaurer une communication, mais on ne le fait pas de façon très efficace. Je pense qu'il y a là un immense domaine d'application, vraiment.
Donc des recherches porteuses d'espoir en recherche clinique.
Écoutez, on l'espère, oui.
Je vous remercie Stanislas Dehaene. Une dernière question d'ordre très pratique. Vos recherches sont basées sur l'expérimentation. Comment vous sélectionnez parfois les très jeunes enfants qui vont participer à vos expériences?
Les enfants comme les adultes, on se repose sur des volontaires. Alors les gens peuvent s'inscrire effectivement sur le site internet de Neurospin et on dispose d'une petite base de données qui nous permet ensuite d'appeler les volontaires au moment où les expériences sont prêtes. En ce qui concerne les très jeunes enfants, ça se fait par un mailing qui est fondé sur les registres des naissances et ensuite les parents volontaires nous appellent. Ça n'est pas compliqué, ça n'est pas non plus très long, très complexe pour l'enfant. On essaye évidemment chez les enfants de garder un contexte extrêmement confortable. Et puis l'expérience doit parfois s'arrêter si l'enfant n'a pas envie de collaborer. Donc tout ça se fait dans un esprit, je dirais, bon enfant, mais avec de la haute technologie de l'imagerie cérébrale.
Eh bien merci Stanislas Dehaene, il me reste à donner quelques indications pour nos auditeurs. Déjà vos ouvrages, Les neurones de la lecture, publié en 2007 chez Odile Jacob, La bosse des maths, première édition 95, réédité en 2010, toujours chez Odile Jacob, et puis bien sûr le site du Collège de France sur lequel on retrouve vos cours. Les cours non seulement de cette année, mais également les cours des années précédentes depuis 2005, et puis également le site de l'Académie des sciences sur lequel on retrouve votre fiche biographique. Merci Stanislas Dehaene, et puis j'espère à bientôt pour de prochaines avancées sur la connaissance de notre cerveau. Merci.
Merci.